Tout comme pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les hyènes.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Dès le début, le futur a été au cœur de son travail, raconté en dessin ce que sera demain au centre de son œuvre, le temps, la mémoire. Et sa grande préoccupation, la survie de l'espèce humaine. Vaste programme. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Ces histoires, ces albums, ces films anticipent la réalité et cette réalité est devenue notre quotidien. Alors vivons-nous désormais dans un film de science-fiction. Bonjour Enki Bilal.
Bonjour.
Oui, le monde de demain existe déjà aujourd'hui. Une technologie ultra développée, un environnement sacrifié et ce virus qui empoisonne toute la planète. Beaucoup de films ont raconté demain, et vous, Enki Bilal, dessinateur, scénariste, réalisateur, avez choisi ceux qui ont éveillé votre conscience et qui ont posé un vrai questionnement sur la vie, l'humain, la création de 2001 à Interstellar, de grandes visions et de grands auteurs. Sans être anxiogène, ce n'est pas le but ce matin, surtout en ce moment, nous explorerons avec vous, Enki Bilal, ces grands films de cinéma. Et pour conclure, des idées, il en faut pour accueillir le cinéma chez soi et ouvrir d'autres horizons. C'est parti.
Qu'est-ce que c'est que ça? Hein, qu'est-ce que c'est? Holm, vous le savez?
Mais bien sûr que je le sais. C'est la taupe, ma taupe.
Qu'est-ce que vous racontez?
C'est tout ce qui compte dans le monde. Se planque dans des abris souterrains anti-atomiques, anti-chimiques, anti-émeutes, anti-tout. Où faut-il frapper, à votre avis? Il faut frapper là où ça fait le plus mal. Ma taupe est capable de faire le tour du globe s'il le faut. À des profondeurs incroyables, indécelables, inimitables. C'est un produit Holm Industries. Parfait comme toujours.
L'agonie d'un groupe de dirigeants enfermés sous la surface d'un monde ravagé par la guerre civile, parmi eux, le machiavélique Holm, c'est Jean-Louis Trintignant dans votre premier film, Enki Bilal, Bunker Palace Hotel en 1989. Avant cela, beaucoup d'albums et beaucoup de puits qui explorent le temps à travers des mondes, passé, présent, futur. Est-ce que ce serait le cinéma du dimanche après-midi au Casino de la Garenne, ces films américains de tout genre, qui vous donnaient le soir envie, une folle envie de dessiner? Finalement, est-ce que ça n'a pas commencé avec le cinéma pour vous, presque, le dessin?
Vous avez mais tout à fait raison, parce qu'en arrivant, justement, je me faisais un peu ce petit scénario en me disant, voilà, pourquoi ces films m'ont marqué? Et en fin de compte, le cinéma, la bande dessinée me passionnait tant que j'étais adolescent et que je rêvais d'en faire. Là, vraiment, je dévorais tout, Pilote, Tintin, Spirou, tous les hebdomadaires, et je regardais comment travaillait Gottlieb, même si c'est de l'humour à fond, Gottlieb, comment travaillait Mézières, comment travaillait Giraud, comment travaillait Druyet, Tardy, devenu un copain, enfin bon, bref, tout ça, c'était mon monde, ça me faisait vibrer tout ça d'essayer d'imaginer, m'imaginer dessinateur un jour, ce que je deviens. Et à partir du moment où je deviens dessinateur, eh bien, c'est le cinéma et la littérature qui prennent le relais. Alors, je m'intéresse évidemment à ce qui sort, je reçois mes albums de copains, je lis très peu de bandes dessinées, et c'est le cinéma, c'est la littérature, ce que je viens de dire, qui m'abreuve, qui me stimule et qui me motive. Et en fin de compte, ma bande dessinée elle-même, elle a un peu changé de nature au contact de ces deux médiums qui me poursuivent et qui me suivent. Alors, le cinéma de la Garenne Colombes, ça c'était vraiment l'adolescence, l'enfance, donc j'étais à Paris depuis peu de temps. Ouais. Et donc le dimanche après-midi, ma mère, ma sœur et moi, on allait voir le film du dimanche après-midi au Casino de la Garenne Colombes, pendant que mon père souvent allait aux courses, voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert à la fois ce plaisir du cinéma. J'avais déjà connu ça à Belgrade quand j'étais gamin, j'ai passé 10 ans là-bas, hein. Ouais. Et puis chaque film que je voyais me donnait envie de dessiner. Donc voilà, des choses s'établissaient comme ça.
Mais vous dessiniez quoi à Belgrade? Vous dessiniez à la craie sur les trottoirs de Belgrade? Vous dessiniez dessinez déjà des créatures? Qu'est-ce que vous dessinez?
Alors, j'ai dessiné beaucoup, effectivement, et surtout, pour un film, j'ai dessiné parce que j'avais été repéré par un metteur en scène, peintre. Et donc, j'ai joué dans un petit film, genre un film à la Tati, donc sans son. Il n'y avait pas du tout de son, mais il y avait de la musique. Bon. Et donc, c'est des gamins à travers Belgrade qui se poursuivent et qui dessinent les uns des cow-boys et les autres des Indiens. Donc voilà, moi je dessinais des cow-boys, je dessinais ce qu'on me demandait de dessiner, évidemment, j'avais pas mon univers à ce moment-là. Mais en tout cas, le dessin vient de Belgrade, bien sûr, ma mère m'avait encouragé à dessiner, et puis il y a eu cet épisode, ce petit film comme ça, qui m'a mis en contact, alors très curieusement, à 9 ans. Moi, petit dessinateur débutant, je savais pas que je deviendrais un grand dessinateur, entre guillemets, grand par la taille, hein, je suis pas en train de dire que ça ne m'appartient pas. Mais et le cinéma qui se rencontre, c'est drôle.
Et pourtant, la différence du cinéma, vous, en bande dessinée, vous pouvez imaginer plein de choses. Il n'y a pas de souci d'argent, je veux dire. Il n'y a pas de frontières, en fait, en dessin.
Alors c'est tout à fait vrai, et ça évidemment je le mesure encore plus aujourd'hui, parce que tout ce que j'ai pu produire en tant que dessinateur, auteur, évidemment, imaginer en transposition cinématographique, ça vaudrait très 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 cher. C'est pour ça qu'il est difficile pour moi de faire des films, même si je me bats souvent en disant mais ça peut ne pas être aussi cher que vous.
Bon. Oui.
En revanche, ce que le cinéma apporte par rapport à la BD, et qu'on vient d'entendre avec Trintignant, c'est le son, c'est la voix. Parce que le mouvement en BD, il existe, tout ça, mais le son et la voix, ça vous l'avez pas.
Alors le son, la voix, les intonations, et d'ailleurs, quand on entend cet extrait de Bunker Palace Hotel, eh bien c'est pas du tout anxiogène. Parce qu'il y a l'humour, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'humour de Trintignant, sa voix, sa dérision. Donc c'est effectivement hyper important. Le son, c'est ce qui manque dans la bande dessinée, c'est évident.
Vous entendez celui-là, cette bande-son? Parce que ce film-là, il est en tête de liste de vos films. C'est le film fondateur, le film Matrice. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick, 1968. Vous l'avez découvert à sa sortie, vous l'avez revu, m'avez-vous dit, 15-20 fois depuis. C'est une référence écrasante, ça, de film d'espace.
Alors, elle est écrasante pour tout le monde, je pense. Je crois que...
Après, tout le monde s'est situé par rapport à lui.
Absolument. Et c'était en plus, en fait, c'est un film qui arrive à un moment clé aussi pour l'humanité, puisque c'est l'année d'après, en 69, l'homme se posera sur la Lune. Et le premier homme, Armstrong, posera son pied sur la Lune. C'était l'apothéose quasiment de cette guerre de l'espace que se menait l'Union soviétique et les États-Unis, avec Gagarine avant, etc. Donc ça, il y a tout d'un coup cette espèce de film qui arrive et qui en plus place le débat très très haut, puisqu'on est dans la métaphysique pure. Alors cette fin, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est quoi, etc. Alors le film aujourd'hui a vieilli, mais il garde sa puissance. Il garde sa puissance.
Bah, il a créé une durée, un espace-temps.
Parce qu'on
n'a
toujours pas réglé le problème de la fin.
Exactement.
Et donc ce film alors, est extrêmement... Alors moi, je l'ai vu avec des copains, on était très branchés musique et cinéma, et c'était une révélation. Et Kubrick, à ce moment-là, je connaissais déjà Docteur Follamour, Lolita, enfin bon, bref. Mais là, c'est l'ouverture vers ce qui sera ma passion aussi, c'est l'espace. Alors ça, c'est un autre truc plus secret, mais je suis un grand amateur d'astronomie, je m'intéresse à ce qui se passe, à ce qui va nous arriver. J'attends l'extraterrestre, comme tout le monde.
Et là, vous avez choisi un extrait très très émouvant. C'est la fin de HAL 9000, l'ordinateur qui fait ses adieux.
I can feel it. I'm afraid. Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois, on the 12th of January, 1992. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you.
C'est fou d'avoir cette émotion. Hein, dans ce...
Oui, et puis il va être déconnecté petit à petit, il va chanter une chanson. En plus, Dave, le cosmonaute, l'astronaute, lui demande de chanter. Parce que lui-même, il sent qu'il est en train de débrancher une vie, c'est ça qui est étonnant. Et j'ai repensé à ça, c'est un film qui a vraiment marqué. Et ce moment, cette fin du film, je me suis souvenu que Roger Waters du Pink Floyd avait utilisé le début d'un de ses morceaux, cet extrait avec Hall qui est débranché. Donc c'est quelque chose qui a touché toute une génération et de créateurs et de, parce que on était dans ce basculement, ce glissement vers les nouvelles technologies, vers et cet premier ordinateur entre guillemets humain, puisque il réussit à lire sur les lèvres de ces deux cosmonautes, et c'est comme ça qu'il les piège.
Oui.
Il en tue un d'ailleurs carrément.
Oui.
Donc c'est vraiment un sujet fort. Alors donc c'est marquant.
Sur la présence, Arthur Clarke a dit parfois je pense que nous ne sommes seuls dans l'univers, et parfois je ne pense pas. Dans les deux cas, cette idée me fait chanceler. Vous, ça vous fait chanceler comme idée, l'idée d'une présence comme ça?
J'y pense peut-être depuis tellement longtemps. Moi, je suis persuadé qu'on n'est pas seul, bien sûr. C'est absolument certain. Donc, je pense que les scientifiques, à mes idées, reposent sur des millénaires maintenant que nous sommes seuls. Hein, les religions sont là pour ça. Mais la science aujourd'hui permet de comprendre qu'il y a de très très fortes chances qu'il y ait la vie ailleurs.
Évidemment, ou pas qu'il dans y a eu, ou qu'il y aura.
Mais en même temps, mais c'est tellement vaste l'univers, est tellement sans fin que c'est sûr, c'est certain. Donc maintenant, le problème, c'est que c'est tellement vaste que pour rencontrer quelqu'un, c'est une aiguille dans une botte de foin, énorme botte de foin qui aurait la taille de la planète. Voilà. Mmh.
Trois ans après 2001, en 71, et inspiré sûrement par 2001 et bien avant lu par Metropolis, qui est un film que vous adorez aussi, George Lucas, sous l'impulsion de Coppola, tourne THX 1138. Tiens, on va écouter la bande-annonce.
Correction THX.
Au 25e siècle, dans une cité souterraine qui ressemble à une termitière humaine où chacun s'identifie par un code de 3 lettres et 4 chiffres, THX 1138 est un technicien tout à fait ordinaire travaillant sur une chaîne d'assemblage de policiers robots. Il va tomber amoureux et faire l'amour, ce qui est complètement interdit. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce film THX?
Je dirais que c'est la thématique évidemment qui me touche beaucoup, parce que j'étais en train moi-même de penser à mes premiers récits. J'étais très pris par déjà mes origines. Hein. Je viens d'un pays de l'Est, alors une dictature soft hein, avec Tito, mais quand même c'était le rideau de fer. Je savais ce que c'était. Et Tito avait dit non à Staline, donc j'étais né dans un contexte extrêmement politisé, idéologique fort. Hein, et donc ça c'est la soumission de l'humain à un système politique, c'est quelque chose qui me parlait, forcément. Et donc, je cherchais ce genre de film, ça m'attirait, ce genre de livre. Hein, donc, j'ai lu énormément de livres dits de science-fiction là-dessus. Et lorsqu'apparaît cette thématique, ce film qui n'est pas tout à fait parfait, hein, c'est le premier film de long-métrage de
George Lucas. Hein. Ouais.
Mais bon, il y a Daniel Duval dedans, il y a Donald Pleasance.
Donald Pleasance, ouais, bien
extraordinaire
sûr.
Acteur. Donc, alors c'est une thématique archi finalement classique. Hein, c'est l'oppression, l'amour est interdit, l'être est soumis à une dictature, on ne sait pas d'où il vient, de la planète on ne sait pas où on est dans un souterrain, c'est comme Bunker Palace Hotel quelque part.
Oui.
Le souterrain devient un refuge pour une société, pour une dictature. Et donc ce sont les codes, disons, que moi je recherchais et qui m'excitait et qui m'excite toujours. Hein. C'est quand même une des thématiques du pouvoir, hein, qui concerne l'humanité. Hein. Depuis la nuit des temps, on est confronté à ça. Donc ce film, voilà, fait partie de ceux qui sont fondateurs aussi. Ouais.
Et après, il était dans la grande industrie qu'il combattait, le merchandising, avec la guerre des étoiles, que vous n'aimez pas.
Je prends du plaisir, mais non, je trouve pas. Je trouve que ça manque de... Je trouve que c'est trop clinquant. C'est un peu une grosse machine, ouais.
Vous connaissez la musique, là ? 1979. Vous avez déjà publié des albums, L'Appel des Étoiles, La Croisière des Oubliés, Le Vaisseau de Pierre, La Ville qui n'existait pas. Lui, Il avait réalisé un seul film. Et quel film ? Les Duellistes. Et c'est lui qu'on viendra chercher donc pour réaliser le plus troublant, le plus angoissant des thrillers futuristes. Alien, le huitième passager. Un vaisseau, un espace confiné dans l'espace. Et on y introduit l'angoisse, la peur, la terreur. En fait, Alien, c'est la peur ancestrale. C'est le monstre sous le lit.
Ouais. Et c'est pour ça que c'est très très fort, c'est que effectivement ça parle immédiatement à tout le monde et l'espace se prête à ça, hein, parce qu'on est comme ça avec un groupe d'êtres humains qui sont en plus il y a ce côté très réaliste et très quotidien, c'est-à-dire que on les voit vivre
c'est social, oui, il y a du social.
Voilà, c'est très donc à la limite on pourrait être dans un asile ou un
prolétariat de l'espace.
Voilà. Ouais. Alors effectivement, on regarde un peu parfois, on ouvre le hublot et on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc noir? Bah c'est l'espace, ouais.
C'est ça.
Donc c'est et en fin de compte, il faut sortir sur une planète enfin pour en revenir et pour là rentrer directement tout d'un coup dans le drame, dans le tragique et dans l'horreur. Absolu, puisque c'est là que ce cosmonaute aussi, qui est joué par cet extraordinaire acteur aussi, mais à chaque fois il y a des acteurs extraordinaires aussi qui marquent ces films-là, hein. C'est John Hurt,
oui.
Qui, au cours d'une scène...
Vous l'avez choisi, on l'a trouvé.
Elle
est assez terrible, cette scène. Moi, je préviens les auditeurs s'ils ont des enfants à côté d'eux, parce qu'il n'y a pas l'image, mais le son est assez probant. On y va.
I don't want to talk about what it's made of. I'm eating it. What's the matter? The food ain't that bad, baby. Okay.
Eat your patrol. What's wrong? Get him. What's wrong? What?
You see this?
Hey, what's the matter?
On décrit là.
Oui, c'est assez. On est tous. On revoit les images. Parce qu'il faut imaginer un dîner entre cosmonautes, comme ils sont tous en t-shirt. Hein, il doit faire chaud un peu dans leur. Et ils sont en train de dîner, de manger, puis il y en a un tout d'un coup qui a un malaise, quelque chose qui ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Et puis en fin de compte, il y a la bête, le monstre qui sort de son torse, hein, de son thorax.
Son thorax, corps, exactement.
Et à partir de ce moment-là, on est dans quelque chose d'infernal. Donc voilà, grand film tout court, hein, parce que c'est du pur cinéma. Là, on est dans quelque chose de tout à fait fort. Ouais.
L'autre dimension de l'alien, c'est la féminité, parce que c'est quand même la première fois qu'il y a un personnage féminin, certes qui s'appelle comme un homme Ripley, et qui va combattre au fil des films, notamment une femme qui est la mère alien. C'est finalement le combat de deux femmes. Donc ça, c'est quand même très très nouveau dans la science-fiction.
Tout à fait, juste, exact, et en plus là aussi une actrice qui marquera, qui nous marque tous.
Sigourney,
sa petite culotte, exactement. Il apporte aussi cette dose d'érotisme quotidien, d'ordinaire un peu, mais qui est très fort au cinéma, surtout dans un contexte. Vous avez absolument raison, c'est ce regard féminin qui devrait plaire aujourd'hui à certaines de nos extrémistes.
Bah non, à tout le monde.
Pour le féminisme d'aujourd'hui, mais c'est pas le sujet de l'émission.
Non, mais voilà, avec un argument publicitaire extraordinaire, dans l'espace, personne ne vous entend crier.
Ouais.
Mais ça, c'est génial. Tout le monde a envie de s'y précipiter.
Avec l'affiche qui va avec.
Ouais, exactement. Alors c'était l'époque où il y avait un énorme. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tout passe par les réseaux sociaux, par les machins. Donc avant, la pub avait se préparé. C'était vraiment des concepts qui étaient mûris par des équipes très 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 douées. Et là, il y avait aussi l'un de mes producteurs, Charles Gassot, a produit beaucoup de publicité. Donc lui aussi, il connaissait cette histoire d'affichage, comment travailler une affiche. Je sais pas La vie est un long fleuve tranquille, c'est que du texte, mais fallait y penser, enfin bon, bref. Et donc là, tout le monde se souvient de cette teuf. Dans l'espace, personne ne vous entendrait crier. Et c'est évidemment la scène qu'on a vue là, personne ne l'a entendue.
Avec, l'intérieur, deux collaborateurs de Jodorowsky pour son projet Dune, c'est Diger, le créateur de la créature, et Dan O'Bannon, qui est
scénariste.
Exactement. Ouais. Très important. L'Alien, le huitième passager. Ah oui, un truc intéressant aussi. Le vaisseau spatial n'appartient pas à l'État, mais à une compagnie privée. On pense à Elon Musk, là, tout d'un coup. Il l'a prévu bien longtemps avant.
Bien sûr, absolument. Et ça, c'est, je pense que c'est celui qui, alors, le scénario, Donc le Blade Runner, on sait que c'est Philip K. Dick.
Oui.
Alien, est-ce que c'est une adaptation de... Alors là, j'ai un gros trou là tout d'un
alors,
coup.
Alors c'est un scénario de Dan O'Bannon.
Voilà, mais c'est un scénario original.
Le
scénario original. Mais je ne le mettrai pas.
Mais ça, c'était quand même sans enlever quoi que ce soit à Dan O'Bannon, qui est un grand scénariste. C'était quand même une thématique qui existait déjà dans l'histoire de la science-fiction. C'était les grosses multinationales prenaient le pouvoir et les États avaient plus ou moins disparu.
И вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как
C'est du russe,
déjà. Oui.
Alors, c'est un Stalker?
Oui.
Alors, c'est que je cite pas le tout d'un coup.
C'est Stalker, donc, d'Andrei Tarkovsky, sorti en 1900. Ben oui, vous avez choisi pour nous, bien sûr. C'est pas un vaisseau spatial, mais c'est un trek métaphysique. C'est un passeur nommé le Stalker qui guide un professeur et un écrivain dans un territoire interdit surveillé par l'armée, la zone, depuis qu'il a été rendu dangereux, même mortel, et au sein de cette zone, une chambre où les rêves les plus fous sont censés se réaliser. Je trouve que parmi ceux que vous avez choisis, c'est le film qui ressemble le plus à vos dessins.
Ça me touche évidemment parce que c'est pas ce qu'on appelle, d'ailleurs c'est pas un film de science-fiction, c'est un film de... Mais philosophique, je sais pas comment on peut le... et donc effectivement il n'y a pas des vaisseaux extraterrestres, on est dans le minéral, on est dans la nature, dans l'angoisse, l'inquiétude, dans une atmosphère, c'est la nature se devient une espèce de matrice de quelque chose qui est inquiétant. Et il y a aussi cette thématique qui vont me dévorer entre guillemets en tant qu'auteur à partir de ces années-là, c'est la mémoire. C'est la culture, c'est la littérature. Et donc tout ça, ce personnage, il est confronté, là encore une fois, à une dictature. C'est un film finalement très, très, très combatif. C'est son dernier film fait en URSS. Il est parti après, Tarkovsky. Donc c'est là aussi, c'est des thématiques très, très fortes. Et bon, il y a cette espèce de visuel qui est un mélange de nature, de pierre, d'eau... Et les êtres humains qui sont pris dans une quête absolument incroyable d'essayer de trouver des rêves. Enfin, c'est très difficile d'en parler.
Comme évidemment. Si leur visage ressemblait à la pierre, comme dans vos dessins.
Alors, effectivement, moi, c'est un film qui m'a marqué. Alors, je dis pas que ça vient de là, mais l'unité de texture que j'utilise depuis très très longtemps maintenant pour marquer la peau humaine, un ciel, une étendue d'eau ou un mur. Et c'est une texture qui est identique, c'est un choix. C'est-à-dire que je ne cherche pas à faire réaliste sur la peau. Donc on peut se demander pourquoi la peau, elle a une texture de pierre. Donc tout ça, ça crée une unité, et on a effectivement ça chez Tarkovsky. Alors, est-ce que c'est cette façon de filmer, cette façon d'éclairer, ce côté un peu décalé, parce que c'est de l'Union soviétique, je ne sais pas, est-ce que c'est la pellicule, on n'en sait rien, c'est très mystérieux, il faut que ça le reste, mais ça, ce sont des images qui resteront fortes.
Et c'est réalisé, ça annonce Tchernobyl, 10 ans avant.
Oui.
C'est quand même fou.
Exactement, et c'est tourné dans les mêmes régions, très certainement. Et en plus, c'est un film très lent, alors évidemment. Aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est lent. Il y a des plans très longs sur la nuque d'un personnage. Mais ça, on s'installe dans quelque chose qui est la pensée aussi. Alors, il y a la pensée du cinéaste, mais aussi le spectateur est actif, puisque lui-même, il la développe, sa propre pensée. Et aujourd'hui, on peut pas la développer, la pensée, puisque tout est formaté pour que ça aille le plus vite possible, qu'il y ait le plus de plans possible. Je peux vous dire que Tarkovsky se posait pas la question du nombre de plans.
Laurent parlait par rapport à la voix trintignant et au son, les sons la science-fiction, tous ces films, c'est super important. Chez Tarkovsky, donc, il y a les crissements, les clapotements, les écoulements. Tandis que là, derrière la vitre, là, il nous amène une musique, qui vous la reconnaissez? La bande-annonce.
Alors?
La bande-annonce un peu jazzy.
Oui.
De Blade Runner.
Ah oui, c'est ça.
On avait quitté Ridley Scott en 79, le revoici 3 ans plus tard. Là encore, on vient le chercher pour mettre en image un roman de Philip K. Dick, The Maestro.
Une nouvelle, c'est une nouvelle.
Ouais. Do androids dream of electric sheep? Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques?
Ouais.
Tandis que le titre lui a été trouvé ailleurs, avec donc Harrison Ford, Rutger Hauer. Sean Young, avant d'être un film d'anticipation, Blade Runner, c'est un film noir. C'est l'enquête complexe d'un policier plongé dans un LF futuriste, donc réinventé, mythique, visionnaire. Décor design avec une cité verticale. Alors je crois qu'ils ont fait un mix de plein de mégalopoles, non ?
Absolument, la ville, c'est des tentaculaires, on ne sait pas ce que c'est exactement. Là aussi, il y a une espèce de firme qui règne là-dessus, une espèce d'énorme société sulfureuse, effectivement, qui manipule là aussi, hein, qui crée ces androïdes, ces réplicants, hein,
oui,
c'est le titre qui est donné là. Et donc, c'est la ville du futur, c'est avec effectivement des véhicules qui volent. Hein, on est dans l'espace,
oui,
voilà. Et en même temps, ce qui est très fort là-dedans, et ça vient de Philip K. Dick, hein, c'est de mêler la science-fiction et le polar. Parce que dans le futur, il y aura des flics, il y aura des crimes.
C'est Bogart dans le futur.
C'est même de pire en pire, peut-être, ouais, j'en sais rien. Et donc, ça fait partie de cette vision du futur. Donc, c'est très fort à ce niveau-là. Il y a une empreinte, très, 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 très forte. Et donc, là aussi, ça fait partie de ces films que moi, j'attendais. Et bon, en plus, voilà, j'ai rencontré Ridley Scott à sa demande, donc ça, c'était le truc le plus incroyable.
Et sur le supplément DVD qui est sur le making of du film, qui est, par parenthèse, passionnant, le making of, parce qu'il y a toute la préparation et le tournage. À un moment, Rutger Hauer demande à Ridley Scott comment incarner ce personnage, et Ridley Scott lui répond: tu connais Bilal? Eh ben voilà, tu vas faire comme dans l'univers de Bilal. Quel hommage, Enki Bilal!
Ben voilà, oui, mais ça, alors, je l'avais rencontré avec Ridley Scott à sa demande à la sortie du film à Paris, mais juste pour, vous voulez me rencontrer pour me dire, voilà, vous faites partie de ceux qui m'ont inspiré, votre travail m'a marqué, etc. Donc c'est très agréable, et le making-of, je l'ai appris il y a quelques temps seulement, il y a 3-4 ans. Je savais pas, c'est un ami chef opérateur qui m'a dit, regarde. Bon, ça fait plaisir, bien sûr, mais en même temps, tout ça, c'est... C'est quoi? On se partage, en fait, tous.
Oui.
On se partage une culture, une vision.
Le sang circule.
Exactement. Donc, chacun cite chacun. C'est parfait. C'est très bien comme ça. Et c'est très agréable.
Et Kadik a dit un truc très beau sur le film. Il a dit: le roman et le scénario sont comme les deux moitiés d'une œuvre d'art transcendée. C'est formidable. C'est magnifique, dommage d'auteur.
C'est rare qu'un écrivain ou qu'un texte.
Oui.
Voilà. Mais c'est parce qu'il y a eu une vraie, prise du sujet, il assume totalement ce qu'il en a fait, Ridley Scott. Donc là, c'est un de ses films les plus brillants à ce niveau-là. Avec Alien, après, c'est Les Duellistes aussi, hein. On a cité les trois premiers qui sont magnifiques. Oui. Après, ça devient plus inégal, mais c'est un cinéaste qui tourne énormément, mais qui reste un des très grands.
Hein. On va écouter ce morceau avec Rutger Hauer, ses adieux, ce monologue, qu'il apparaît-il beaucoup improvisé.
I've seen things you people wouldn't believe. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion.
I watched sea beams glitter in the dark near the Ten Hauser Gate.
J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser.
All those moments will be lost.
Tous
in time.
Moments se perdront dans l'oubli.
Like
comme
tears.
Les larmes
in rain.
Dans la pluie.
Time to die.
Il est temps de mourir.
Et après Enki Bilal, on va faire un grand saut dans le temps. 2014, avec un cinéaste, Christopher Nolan, qui explore le temps, la mémoire, l'identité depuis son premier film Following, le suiveur, suivront Memento, Insomnia, les Batman, Inception et celui-là. Comme un descendant de 2001, c'est presque une version moderne de 2001. C'est donc Interstellar, avec Matthew McConaughey, Michael Caine, Jessica Chastain, Anne Hathaway. C'est vous qui le dites, hein, que c'est un 2001 moderne.
Moi, je pense que c'est s'y fait écho à 2001. C'est peut-être aussi dans l'esprit de Nolan, l'envie de taper très très haut après l'élément fondateur dont on a parlé, dont on parle tout le temps. Et effectivement, là aussi, on est face à l'inconnu de l'espace. Et ce qui est intéressant, il est très beau dans l'extrait qu'on a entendu avec Rutger Hauer dans Blade Runner, c'est qu'il, là, les images ne sont pas utiles parce qu'elles seraient même inutiles, puisqu'il évoque des choses magnifiques qu'il a vues ailleurs.
Oui.
C'est-à-dire l'ailleurs, c'est-à-dire quelque chose qui est dans l'espace. Et le fait de ne pas montrer, les mots là prennent toute leur puissance. Et ça, c'est qui est très beau quand dans le cinéma, les mots viennent effacer l'image et surtout la remplacer. Et donc ça, c'est le grand mystère. Ça intéresse Nolan aussi dans Interstellar.
Je vais raconter en deux mots l'histoire. Alors oui. Que la vie sur Terre touche à sa fin, un groupe d'explorateurs s'attelle à la grande mission, franchir les limites de notre galaxie pour savoir si l'homme peut vivre sur une autre planète, parce que cette planète-là est foutue, c'est ça le thème.
Alors d'une part, c'est un thème tout à fait réaliste, oui. Que je vous signale, personnellement, en tant que spécialiste du futur, je vous signale que dans quelques siècles, nous aurons droit à cette question, et qu'il sera même temps de s'en préoccuper maintenant. Alors Elon Musk rêve de Mars, je pense qu'il se trompe un peu, mais en tout cas, donc c'est quelque chose qui nous pend en nez clairement. Alors effectivement, c'est un film en plus qui est très Interstellar, qui est très scientifiquement très solide.
Il faut nous expliquer le trou de verre là.
C'est très compliqué.
C'est très compliqué parce que le film repose beaucoup sur cette théorie là. Donc c'est très important.
Comment aller quand on sait qu'il y a deux points dans l'espace, l'étoile la plus proche où vous pourriez avoir de la vie, par exemple. Pour nous, c'est des dizaines d'années, voire des centaines d'années-lumière, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière. Donc vous imaginez, on n'y ira jamais. L'histoire du trou de ver, c'est lorsqu'on a... Il y a des théories qui montrent que l'espace est peut-être quelque chose qui est souple et qui peut être plié. Il y a des replis. Et donc l'idée, c'est comme si vous preniez une cravate, vous la dépliez, puis vous la repliez de façon à ce que deux bouts se joignent. Et là, vous faites un trou avec une aiguille et vous faites joindre deux distances qui sont astronomiques, mais qui tout d'un coup sont proches. Bon, en gros, c'est ça, le trou de ver. Donc l'idée, c'est ça, c'est dans les replis de l'espace, il y a une temporalité qui permet de rejoindre quelque chose qui est proche, en fin de compte, mais qui est très très loin, parce qu'il y a simplement... Et donc, prendre un raccourci direct, voilà, ne pas faire... Bon, je ne sais pas si ça a été très clair, mais...
Mais par rapport au temps, alors ?
C'est justement ça, c'est que là, alors, du coup, c'est proche.
On abolit le temps.
Par exemple, une minute sur une planète, sur Galilée, peut être 90 ans sur Terre.
Exactement. Donc voilà, ça c'est le principe. Donc, on ne déflore pas le film en disant qu'il va y arriver quand même, un de ces cosmonautes va y arriver, et que finalement, sa fille qu'il a dû quitter quand elle était toute jeune, une gamine de, je sais pas, 12-13 ans.
Oui, c'est ça.
Fusionnelle, évidemment, et il la quitte à un moment en disant, je vais essayer de trouver cette possibilité de nous sauver l'humanité. Et c'est un déchirement, évidemment, terrible, et lui, il va quasiment pas vieillir au cours de son périple, et lorsqu'il la retrouvera à la fin, sa fille, elle aura 90 ans.
Ouais.
Donc évidemment. Et par rapport effectivement à 2001 et à Kubrick, il apporte cette dimension humaine par la famille, la filiation. Donc en ça, c'est un film plus intime d'une certaine façon, moins cérébral, mais qui est remarquable.
Ouais. C'est-à-dire que, en gros, ce serait ça l'idée, l'amour est plus fort que le temps.
Si on peut le dire comme ça aussi, bien sûr, absolument. Mais là, comme le pari était fou, il fallait quand même régler le problème de la temporalité d'abord. Mais effectivement, l'amour rend peut-être aboli de toutes les barrières, y compris les plus folles.
Vous avez tout compris, hein, Interstellar.
Vous savez, parfois vous dites, c'est évident. Et puis dans la seconde d'après, vous essayez de reprendre, de comprendre ce que vous avez cru comprendre, et vous n'y arrivez plus. Ça fait partie de ces films qui créent ce truc. Je suis sûr que même Nolan lui-même, mais c'est évident.
Est-ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau ? Ça, c'est chez Claudel. Ça se rejoint aussi.
Voilà. Bien sûr.
Le futur et la religion, Enki Bilal, parce que tous ces films, elles la traversent. Est-ce qu'on peut imaginer un futur sans religion ?
Alors, il y a eu des dictatures qui ont aboli totalement la religion. Hein, ça fait partie des, un des grands thèmes. Donc, on peut imaginer peut-être qu'à force d'être agacé par la folie des religieux, hein, parce qu'on est, gagné par des fous de religion, hein, un peu partout dans le monde aujourd'hui. À un moment donné, on peut imaginer une dictature mondiale qui interdit la religion, et qui se comporte comme une dictature. Bon, ça, ce sont des grands. On peut l'imaginer, le futur sans religion, bien sûr.
Bon, on va finir par l'amour. Alors, c'est peut-être mieux quand même.
Peut-être. Non, j'aimerais bien savoir ce que deviendra la religion le jour où on aura enfin un extraterrestre face à nous.
Oui.
Voilà. Ça, j'aimerais bien savoir ce que diront les curés, les imams.
Ce sera le nouveau Dieu ?
Les imams et tous les autres.
Vous restez avec nous. On rappelle tous vos conseils. Hein, 2001, Odyssée de l'espace, THX 1138, Alien, le 8e passager, Stalker, Blade Runner, Interstellar. On se retrouve très vite. Je l'ai pas cité, hein, c'est Dark Side, Liberty Bell, puisque vous me demandiez Inky Bilal, très beau morceau. La mort d'un grand scénariste, écrivain, Jean-Claude Carrière, cette semaine. Il faut avoir cette humilité, disait-il, quand on est scénariste, de savoir que son œuvre finira dans les poubelles du studio. Reste de grandes collaborations avec Pierre Etex, Buñuel, Schlendorf, Rapneau, Forman, De Rey, Chéreau, Corneau, tant d'autres. Hier, j'ai vu Jean-Claude a écrit Louis Garrel, et cette chose folle, 89 ans et pas une miette d'intelligence, d'esprit, de talent, qui ne se soit égaré avec le temps, Laurent.
Oui, beaucoup a été dit, et bien dit, comme vous venez de le faire, depuis l'annonce de la mort de Jean-Claude Carrière, et d'abord qu'il fut, comme il l'a lui-même évoqué, un conteur né depuis les premières années dans la ferme héraultaise familiale entourée de vignes. Lui, l'héritier parfait des Lumières, il fit le pont avec un autre siècle, celui des frères Lumières cette fois. Son parcours de scénariste se confond avec l'histoire du cinéma français, européen et même mondial, depuis la fin des années 50 et sa rencontre avec Etex et Tati. Ou comment cultiver le particulier et les beautés d'une langue française et un universalisme revendiqué, qui faisait qu'avec lui, l'Inde pouvait devenir le faubourg d'Avignon le temps d'une nuit des rois mages. Pour cela, il avait adopté la phrase de Colette : « Il faut se servir des mots de tout le monde et écrire comme personne ». Avec ce viatique-là, il pouvait prêter sa plume à Jacques Deray aussi bien qu'à Jean-Luc Godard, vous le rappeliez, tout en retouchant, sans avoir l'air d'y toucher, les alexandrins d'Edmond Rostand pour la bonne cause, celle du cinéma. Avec lui, l'anticléricalisme et l'antimilitarisme cher à son demi-frère Buñuel devenaient les mots d'ordre du parti pris d'en rire. Il meurt à l'heure où ses collègues scénaristes n'en finissent pas de dénoncer avec raison le mauvais traitement que cinéma et télévision leur réservent encore et toujours. Lui qui fut également le président très actif de la FEMIS, la prestigieuse école de cinéma. Il était enfin une encyclopédie vivante, joyeuse et accessible. On se souvient qu'il adapta à la perfection le Bouvard et Pécuchet de Flaubert avec Marielle et Carmé. Alors on parie qu'il se régalerait de cet extrait du dictionnaire des idées reçues. À l'article encyclopédie, précisément, on y lit « En rire de pitié, comme étant un ouvrage rococo, et même tonné contre. » Oui, il en rirait, malicieusement, et nous avec.
C'était Jean-Claude Carrière.
Et il échappe, et ça c'est tant mieux pour lui au moins, il échappe à l'inclusivité, à l'écriture inclusive. Ouais. J'imagine que ça l'aurait rendu fou, ça a dû commencer à le rendre fou. Il était parti pour ça aussi.
Deux livres à recommander, Laurent.
Oui.
L'ordinaire au cinéma d'Arnaud Guy. Téléphoner, conduire, travailler au bureau. Il a choisi des moments quotidiens clés en montrant comment des réalisateurs les plus divers, jusqu'à nos jours, les ont saisis en les déclinant chaque fois à l'aide d'exemples.
Oui, quelle
drôle comme idée.
Quelle très belle idée.
Oui,
on se demande parfois qu'écrire de nouveau au cinéma. Sur le cinéma, ben voilà, cet ouvrage publié au CNRS édition le prouve. Il y a des choses encore à écrire. Parce que, en se plaçant sous le double patronage de Pérec, La vie mode d'emploi, et de Francis Ponge, le parti pris des choses, ben Arnaud Guy, effectivement, il nous fait revoir et revoir des films dans ces situations, vous le disiez, tout à fait quotidiennes, hein, s'habiller, se déshabiller, cheminer en discutant, ce qui fait qu'on est capable de passer de Mathieu Amalric, la table familiale, pétant les plombs à la table familiale de Un conte de Noël de Desplechin, à évidemment Marilyn Monroe descendant magnifiquement un escalier dans Les hommes préfèrent les blondes. Donc tout ça, c'est le corpus est évidemment infini, ça n'aurait pas de fin comme façon d'étudier le cinéma, mais c'est très intelligent, très habile, et surtout, ça parle en permanence de mise en scène, parce que le pari, c'est justement comment montrer cette quotidienneté, cet ordinaire, ce que nous faisons, nous, sans nous en rendre compte, comment le mettre, le transposer sur grand écran. Ça s'appelle « L'ordinaire au cinéma », c'est signé Arnaud Guigues aux éditions du CNRS.
L'autre livre, c'est « La fureur des hommes » de Charles Hawlock. Avant d'être un très grand western d'Henri Hathaway, donc l'un des plus adultes des années 50, La fureur des hommes est un roman particulièrement original.
Oui, absolument. Et c'est, alors il faut le dire, le nouveau volume de la collection L'Ouest, le vrai, créé il y a 8 ans par Bertrand Tavernier chez Actes Sud. Alors en France, on a un peu les idées courtes. Parfois, on est toujours persuadé que avant le western sur grand écran, il n'y avait rien. Ben si, bien sûr, il y avait deux choses. Il y avait le western en peinture, très très importante peinture américaine, et le western en littérature. Ce qui fait que effectivement, tous les Américains ont biberonné cette littérature-là. On sait que le western, c'est leur histoire à eux, c'est leur bréviaire. C'est leur Bible, c'est leur généalogie. Et évidemment, ce qui est très intéressant dans la démarche de Bertrand Tavernier, c'est de nous donner enfin à lire cette littérature-là qu'on ne connaissait absolument pas en France. Et vous le disiez, ce qui est étonnant, c'est que souvent les plus grands westerns procèdent de très très grands romans américains qu'on n'a jamais lus ici. Alors, grâce soit rendue à cet ami américain, ami des Américains, qui est Bertrand Tavernier, il y a une postface parfaitement éclairante, c'est un pléonasme chez Tavernier, dans ce nouveau volume. Mais du coup, remontez la collection, parce qu'elle est déjà riche de plusieurs titres, et franchement, vous allez être extrêmement surpris par cette très très belle littérature, très très bien écrite. Là, par exemple, il y a une fin épistolaire, qui est d'un point de vue romanesque, absolument singulière et tout à fait passionnante. Donc ce volume-là s'appelle La fureur des hommes, Charles Hawlock, et c'est chez Actes Sud, la collection L'Ouest, vrai.
Deux DVD, à commencer par celui-là, Le témoin à abattre de Enzo Cattelari, 1973, édité par Studio Canal, collection Make My Day.
Oui, c'est un beau coffret Blu-ray DVD. Alors préférez quand même, si vous regardez le film au moins pour la première fois, préférez le DVD par rapport au Blu-ray, parce que dans le DVD, il y a la version italienne, avec sous-titré français bien sûr, et le Blu-ray, manifestement, ils n'ont pas trouvé la version italienne, donc c'est une version américaine, ce qui là est un peu curieux, j'avoue, entendre Franco Nero parler en permanence anglais, c'est un peu curieux. Alors, ce qu'il y a d'autre curiosité aussi, c'est que le film démarre à Marseille. Marseille écrit avec un S final, comme dans quel film? Mais comme dans French Connection. Là aussi, dans French Connection, Marseille, S final. Et les films, et les deux films c'est commencent de la même manière. Et très rapidement, dans ce témoin à abattre, on retrouve qui? Fernando Rey, en chef de la mafia de la drogue. C'est tout à fait étonnant parce que ça correspond à un courant que personnellement j'ignorais, qui est le polidiotesco, qui est un courant des années 70, qui est un courant de films policiers italiens. Alors le vrai titre du film italien original, c'est, tenez-vous bien, la police incrimine, la loi absout. Hein, c'est autre chose que le témoin à abattre, excusez-moi. Hein. Et on est vraiment là dans effectivement ce qu'il y a dans le film, c'est-à-dire une mise en cause de la société italienne, bien sûr du trafic de drogue, mais aussi de la société italienne. Donc c'est efficace, c'est violent, c'est nerveux, c'est assurément à découvrir parce que c'est un courant qu'on ne connaît pas. Alors les acteurs en font un peu des tonnes, et notamment Franco Nero, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup de la découverte ou de la redécouverte.
Et
le
sinon, témoin à abattre. Oui, sinon notre cadeau Enki Bilal, le voici, je vous laisse le présenter.
Alors, ben on reste dans la science-fiction avec Les premiers hommes dans la Lune. Je ne sais pas si vous connaissez ce film de Nathan Jurand, dont les effets spéciaux ont été faits par le maître absolu des effets spéciaux américains, Ray Harryhausen, à qui on doit le 7e voyage de Sinbad notamment.
Et le combat des squelettes dans...
Les Argonautes, Jason. Évidemment, c'est un génie, c'est un type qui a créé énormément de choses. C'est un type qui a beaucoup développé sur toute la miniature des décors et des effets spéciaux. C'est un type à qui on doit énormément de choses. Et ses premiers hommes dans la Lune, c'est 1964, publié par Sidonis, très belle maison d'édition de DVD et de Blu-ray en l'occurrence, un coffret. Et ce film de 1964, c'est aussi un hommage évidemment à Méliès.
Bien sûr, parce que
Méliès procédait de Wells et de Verne, mais avec le même mélange d'humour et de gravité. Chez Méliès, on retrouve ça, et chez Juran aussi, c'est-à-dire qu'il y a une immense créature qui fait penser à la future créature d'Alien, par exemple. Vraiment, c'est étonnant comme on voit que Ridley et Scott a aussi puisé là-dedans. Il y a un très beau livret de Marc Toulek qui est très éclairant sur tout ce courant cinématographique incroyable. Je rappelle, ça s'appelle Les premiers hommes dans la Lune et c'est publié, édité par Sidonis.
Merci, Enki
Bilal. Merci pour le cadeau.
Je voulais signaler de ce livre Nu avec Picasso. Assez dingue, chez Stock, une nuit dans le musée Picasso, il me demande de produire quelque chose à partir de mon engagement, de justifier ma présence, je dis avoir travaillé sur la fin des idéologies du XXe siècle, les mêmes que lui, et avoir pointé contrairement à lui la version rouge, sang des rouges de ces temps qu'il ne voulut pas voir comme nombre de ses célèbres contemporains, etc., etc.
Merci de lire cet extrait parce que j'y tiens beaucoup.
Ah, c'est vrai.
C'est un cauchemar réveillé, c'est magnifique.
Merci Enki Bilal, on vous laisse les clés du générique, au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs, il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs, moi je fais la liaison. Il y a les prises de vue qui sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Enki Bilal, j'y étais.